Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Le titre de mon sermon aujourd'hui, Dieu le Créateur. Dieu le Créateur. Nous allons voir cet aspect admirable de la divinité. Il y a plusieurs aspects de la personnalité de Dieu. Dieu est un législateur. Dieu est le gouverneur de l'univers, sauveur, rédempteur. Il y a plusieurs aspects, mais aujourd'hui, je veux concentrer notre analyse sur le fait que Dieu est le Créateur. Mais Dieu est le Créateur dans un sens unique, qui est exclusif à lui. En tant qu'être humain, on dit que parfois, on crée certaines choses. Il y a des artistes parmi nous ici qui font de la peinture et ils font des belles œuvres. On dit que c'est une création, mais ce n'est pas une création dans la même portée ou dans le même sens que ce que Dieu crée. Parce qu'on prend des matériaux qui existent déjà. On imagine une scène où on reproduit une scène qu'on a déjà vue, qui existait, soit un paysage, soit des visages ou autre. Alors, ce n'est pas vraiment une création au sens de Dieu quand lui crée quelque chose. Dieu est un créateur dans le sens unique et exclusif, c'est-à-dire qu'il peut amener quelque chose à l'existence à partir de rien, à partir d'absolument rien. Et si vous y pensez comme il faut, tout ce qui existe, tout ce qu'on peut voir, et même ce qu'on ne peut pas voir, parce qu'il y a des réalités qu'on ne peut pas voir, mais qui existent, tout ce qui existe, là, ça a été fait, ça a été créé, ça a été amené à l'existence. Mais selon une planification précise et détaillée. C'est pour ça, par exemple, que l'univers fonctionne dans un ordre. Vous regardez les astres, les déplacements de la Lune, des planètes, du Soleil, tout est synchronisé et les saisons reviennent et ainsi de suite parce que tout a été planifié dans un ordre précis et détaillé. Un peu comme quand on construit une maison, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par développer l'idée. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme maison? Quel plan on aimerait avoir et tout ça? Après avoir réfléchi, on passe à l'étape de faire des dessins ou de faire des plans par un architecte. Et on prend des décisions après, on fait des choix de matériaux et tout ça. Et il y a toute une série d'étapes qui s'en suivent avant d'arriver au produit fini. Dieu a fait la même chose. Exactement la même chose. Avant que quoi que ce soit amené à l'existence ou ne soit créé, il y avait de toute éternité que deux êtres spirituels. La Bible est très claire là-dessus. Avant que quoi que ce soit amené à l'existence, soit créé, il n'y avait de toute éternité que deux êtres éternels qui existaient par eux-mêmes, qui avaient des pouvoirs créateurs illimités, avec une puissance totale et étant dotés d'un caractère parfait, juste, saint. Et ces deux êtres-là vivaient en parfaite harmonie. Mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de matière qui existait. Il n'y avait pas d'ange, pas de matière. Il n'y avait pas d'univers. Il n'y avait pas les planètes, le soleil, les galaxies, le cosmos. Tout ça, ça n'existait pas. Et il n'y avait personne d'autre, aucun autre être vivant. Il n'y avait donc que ces deux êtres spirituels éternels, mais avec une hiérarchie. Il y en avait un qui était plus élevé que l'autre. On peut voir dans ça que déjà, la forme de gouvernement de Dieu existait. Elle a toujours existé. Et c'est pour ça qu'il l'a reproduit dans la famille, c'est pour ça qu'il l'a reproduit dans l'Église, qui est sa famille, et c'est pour ça qu'il va reproduire cette même forme de gouvernement hiérarchique dans le monde à venir. Jean 1. Jean chapitre 1. L'Évangile de Jean, donc, chapitre 1. Et on va lire le verset 1 à 3 ici. Et ça, ça parle d'un temps qui est antérieur à la création de quoi que ce soit, au moment où il y avait seulement ces deux êtres spirituels éternels. Alors, Jean 1, verset 1, « Au commencement, » Jean emploie ce mot-là parce qu'en tant qu'être humain, il faut qu'il dise quelque chose, là. Il existait quelqu'un, « était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, les deux êtres en question, un qui était supérieur en autorité que l'autre, mais les deux étaient Dieu. celui en autorité et l'autre qui était la parole, c'est-à-dire le porte-parole du premier. Et c'est pour ça que le Christ est venu sur la terre. Il a été le porte-parole de Christ, de son Père, pardon. Il a fait connaître son Père, il a fait connaître ses lois, son plan. Alors, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et regardez, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bon, alors avant que quoi que ce soit créé, allons dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, on parle dans Hébreux chapitre 7 de ce deuxième être éternel qui existait sous l'autorité du Dieu suprême, gouverneur de l'univers. Hébreux 7 et le verset 3, et regardez comment on le décrit, cet être-là. Il est sans père. À ce moment-là, il était sans père. Sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Alors, cet être-là qui était avec le gouverneur suprême de l'univers, à un moment donné est venu dans la chair humaine et est devenu semblable aux êtres humains, puis il est devenu Fils de Dieu par la résurrection. Bon, ça nous donne une idée. Donc, on va maintenant dans Colossiens 1. Colossiens, chapitre 1. Aujourd'hui, dans le sermon, ça va nous donner de voir la majesté de Dieu. Comment Dieu est puissant, comment Dieu a tout planifié depuis très longtemps et comment il accomplit exactement ce qu'il a déterminé de faire avec le Christ. En harmonie avec le Christ, dis-je. Hein? Colossiens 1 et le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Oui, c'est pour ça que le Christ a dit à Philippe, à un moment donné, qui lui demandait, montre-nous le Père. Le Christ a dit, écoute, tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis pareil comme mon Père. OK? Et le Christ, il est le premier-né de toute la création. Parce qu'il est le premier-né en tant qu'être spirituel par la résurrection. OK? Verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Parce qu'il y a des choses qui sont dans les cieux, qui n'existaient pas avant et qui ont été amenées à l'existence par le Christ. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Le gouverneur de l'univers a voulu que les choses soient ainsi. Il a créé les choses par son porte-parole et il les a créées par lui et il les a créées pour lui. Le Christ est le créateur, comme son Père. Son Père est créateur aussi. L'autre Dieu est créateur aussi. Maintenant, avant de créer l'univers physique, déterminons comme il faut c'est quoi l'univers physique, là. L'univers physique, c'est la Terre, c'est le Soleil, les étoiles, le cosmos, les galaxies, tout ce qui existe dans l'univers physique. Mais avant de créer ça, le Christ a d'abord créé d'autres êtres. Ça, vous le savez par l'étude de la Bible. Des êtres spirituels qu'on appelle des anges. La Bible ne dit pas combien ont été créés? Des millions? Des centaines de millions? Des milliards? Probablement. On verra. On saura un jour. Mais les anges ont été créés individuellement. Les anges n'ont pas de père, n'ont pas de mère, n'ont pas d'enfant, n'ont pas de frère, n'ont pas de sœur. Ils ont été créés tous individuellement. On le voit dans la Bible. Mais c'est des êtres spirituels qui sont immortels, entièrement créés d'esprit. Créé avec un esprit en eux, un esprit qui est capable de penser, qui est capable de raisonner, qui est capable de faire des choix, qui est capable de prendre des décisions. Dieu n'a pas créé des robots, il les a créés libres. Il y avait donc un libre arbitre et ils pouvaient accepter la voie juste de Dieu ou la voie opposée. Eux aussi avaient un choix. Ils pouvaient prendre l'une voie ou l'autre voie. Ils avaient un test à passer, comme nous qui sommes appelés aujourd'hui et comme les autres qui seront appelés à partir du monde de demain, lorsque le Christ reviendra. Donc, il y avait un test à passer, ou se soumettre à Dieu, ou bien faire les choses à leur façon. Maintenant, après avoir créé les anges, okay, au début, donc, ou de toute éternité, il existait deux êtres spirituels, éternels, tout-puissants, en harmonie, et il y avait une hiérarchie. Après ça, avant de créer l'univers physique, ils ont créé les anges. Après avoir créé les anges, là, ils ont créé tout l'univers physique. qui n'existait pas jusque-là. Il n'existait rien de ça. Allez dans Job 38. Ça vaut la peine. C'est super d'ailleurs. Job, chapitre 38. Et si vous vous rappelez ce dont il est question ici, c'est que Dieu est en train de montrer à Job que c'est lui qui est le créateur de toutes choses et que ce que l'homme doit faire lorsque Dieu l'appelle, c'est de reconnaître qu'il est rien et de reconnaître que Dieu est tout. OK? Alors, le sous-titre dans ma Bible, Louis II, c'est marqué « L'Éternel répond à Job en décrivant ses œuvres ». Autrement dit, en décrivant sa création physique, ce qu'il a fait, les planètes, les animaux et tout ça. Et c'est intéressant, vous allez voir, si vous lisez les chapitres, là, 38 à 41, Dieu passe en revue une grande partie de la création physique, c'est superbe. Il parle même des planètes, il parle des signes du zodiaque, il parle de la grande ours, il parle de ce qu'il a créé, de différentes planètes, il dit qu'il les appelle toutes par leur nom. Et il parle là-dedans des hippopotames, des crocodiles, et il donne les caractéristiques qu'il a données à chacun de ces animaux-là. C'est fantastique à voir. Alors, regardez ce que Dieu dit à Job ici, à partir du verset 4, aller au verset 7. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? » Là, Dieu amène Job à voir la majesté de Dieu et à voir que Job est rien. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? » Dis-le, si tu as de l'intelligence. « Qui en a fixé les dimensions? » Est-ce que tu le sais? C'est lui qui les a fixées, les dimensions, Dieu. « Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? » Et ça, c'est une question fascinante. Comment se fait-il que la terre est dans le vide, pour ainsi dire, et qu'elle est toujours au même endroit et que les autres planètes sont autour, au bon endroit aussi? Il dit, « Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? » Tu ne sais pas ça, Job. Tu ne peux pas me l'expliquer. Moi, je le sais. C'est ce que Dieu dit. « Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Regardez, verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alors, on voit par ce verset-là qu'au moment où le Christ a créé l'univers physique, la Terre, le Soleil, les planètes, les galaxies, les anges existaient déjà et ils ont été ébahis de voir ce que Dieu venait de créer. C'est ça qu'il dit ici. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. » Ce n'est pas les étoiles des planètes, là. Si vous allez voir dans Apocalypse 1, verset 20, ça dit bien que les étoiles, c'est un langage symbolique pour dire les anges de Dieu. OK? Les anges de Dieu. Et ici, il les appelle les fils de Dieu, mais au sens très, très large. Ils ont été créés par Dieu. Ils ne sont pas nés de Dieu, là. C'est les fils de Dieu au sens très, très large. OK? Alors, ça ici, ce qu'il vient de dire dans Job 38, que c'est lui qui a créé tout ça, l'univers physique, les planètes, la Terre, le Soleil, le cosmos et tout ça. Vous trouvez la description de ça dans Genèse 1, le verset 1. Allez-y, ça vaut la peine. On va revenir à quelques occasions, Genèse 1 et le verset 1. C'est puissant quand on met ensemble les divers versets dans l'ordre qu'ils doivent aller et avec les explications que la Bible nous donne. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, on vient de voir dans Job 38 que quand il a créé les cieux et la terre, les anges qui existaient déjà ont éclaté en chant d'allégresse. Ils ont dit « Wow! Que c'est beau! » Parce que Dieu ne crée pas des choses qui sont désordonnées, tohu et bohu, qui sont malpropres, qui sont en dépouillement ou en mauvais état. Absolument pas. Dieu est un créateur parfait. Quand il a créé ça, c'était très beau. C'est pour ça que les anges ont trouvé ça si joli, si beau. Qu'est-ce qui est arrivé après? Bon, les anges existaient. Maintenant, la création physique existait. Et là, Dieu a confié la terre à un chérubin appelé Lucifer et à un tiers des anges. Pourquoi? Pour qu'il l'administre. Mais ils étaient toujours libres. Dieu les avait créés libres. Je vous l'ai mentionné tantôt et on le voit dans la Bible. Il y avait toujours la possibilité de choisir autre chose que la voie qui leur avait été enseignée par Dieu. Au bout d'un grand moment, ou au bout d'une longue période de temps, on ne sait pas combien, des millions d'années, des milliards d'années, peut-être, on ne sait pas, Lucifer s'est enorgueilli. C'est sûrement venu de long, parce que ce genre de problème-là vient sur une certaine période. Il s'est enorgueilli, il s'est pensé plus important que Dieu, et là, il a convaincu les anges, graduellement, en semant le doute. en mentant. Il est le père du mensonge, n'oubliez pas. Probablement, il a dit aux anges, Dieu a dit que telle chose, mais ça ne doit pas être tout à fait ça que ça veut dire, et ainsi de suite. On peut extrapoler un peu des choses. En mentant, parce qu'il est le père du mensonge, en présentant aux anges les choses, mais à sa façon. À sa façon, pour vendre l'idée qu'il avait à vendre. Et sans doute en se disant maltraité ou traité injustement par le gouvernement de Dieu ou par Dieu. C'est ça qui est arrivé. Traité injustement par le gouvernement de Dieu. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. C'est puissant lorsqu'on met tous les versets ensemble. Ézéchiel 28, et on va commencer avec le verset 12. On va voir à ce moment-ci que les anges ont été créés. Ici, il parle de Lucifer au moment de sa création. Ézéchiel 28, 12 à 17. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. » Et dans l'original, c'est « tu étais le sceau de la perfection. » Parce que Dieu l'avait créé parfait, en sagesse. Il avait donné beaucoup de sagesse, beaucoup d'éclat, beaucoup de beauté. Mais le libre arbitre, il avait toujours le choix. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. On en connaît un autre qui était plein de sagesse, qui a été roi sur Israël, qui à un moment donné a pris d'autres décisions. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Dieu n'avait rien épargné pour le mettre dans une condition formidable. Tu étais en Éden. Ça, c'est la terre, le jardin de Dieu. Dieu l'avait placé sur la terre. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés, regardez bien, pour le jour où tu fus créé. Là, on voit que Lucifer a été créé par Dieu. Il n'existait pas avant. Alors, Dieu avait fait une mise en scène grandiose pour le jour où Lucifer a été créé. Et après, Dieu continue en disant, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, c'est-à-dire sur le gouvernement de Dieu. Une montagne, c'est un gouvernement. Il devait administrer le gouvernement de Dieu sur la terre avec le tiers des anges qui étaient sous ses ordres. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Et il dit après ça, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité s'est trouvé chez toi. » Donc, il s'est passé quelque chose en lui qui a fait qu'il a changé d'attitude. Et regardez verset 16. On n'a plus de détails ici. « Par la grandeur de ton commerce, ou par ta politique, ou par tes manœuvres politiques, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. » Alors, voyez-vous ce qui s'est passé? Dieu décrit comment Lucifer a changé et qu'il est devenu Satan, qu'on appelle l'adversaire de Dieu. M. Armstrong a écrit, dans un de ses livres, « Le mystère des siècles », il a décrit la méthode. C'est intéressant à la voir, ça vaut la peine. M. Armstrong a décrit très bien la méthode que Satan a utilisée pour convaincre les anges et les amener à se rebeller contre le gouverneur de l'univers qui leur avait donné la vie. Vous pourrez aller voir dans le Mystère des siècles, page 74. Je cite. Les Écritures ne nous révèlent pas davantage combien de temps il a fallu à Lucifer pour persuader tous ses anges de devenir des traîtres et de le suivre. Une fois qu'il eut pris la décision de se rebeller et d'envahir les cieux de l'Éternel pour s'emparer de l'univers. Je connais la méthode qu'il a utilisée, M. Armstrong écrit. Il s'en sert encore aujourd'hui. Il s'en est servi dans l'Église. Il s'en sert encore à l'occasion, malheureusement. Il l'utilise pour pousser les êtres humains séduits à être déloyaux, à se rebeller, à s'opposer égoïstement au gouvernement divin. Il commence par en pousser un ou deux à éprouver de l'envie, de la jalousie, une certaine rancune, à leur donner l'impression qu'ils sont victimes, d'une injustice. Puis, il les pousse à la déloyauté. Et tout ça se passe en arrière-scène, d'un à l'autre. Ensuite, à la manière d'une pomme pourrie laissée parmi les pommes saines dans un panier, il se sert de ses victimes pour provoquer dans leur entourage un certain ressentiment afin de pousser les autres à s'apitoyer aussi sur eux-mêmes, à devenir déloyaux et à se rebeller contre Dieu. C'est ainsi que Satan agit. Il n'a jamais changé. Il est encore le père du mensonge. De cette manière, la pomme pourrie fait pourrir une à une les pommes saines qui se trouvent autour. On a vu ça à maintes reprises. Et malheureusement, c'est la même méthode que Satan continue d'utiliser. Alors, on voit que Satan, après qu'il a eu convaincu les anges qui étaient sous lui, ses démons, est monté au ciel pour s'emparer du trône de Dieu. C'est ça qu'il voulait faire. Il s'est pensé supérieur à Dieu. Lui qui avait été créé, s'est pensé supérieur au Créateur. Sa sagesse a été corrompue et il s'est détourné de Dieu. Et là, il y a eu la grande bataille qui est décrite dans la Bible et qui va se répéter bientôt. Il y aura une autre fois bientôt, comme M. Meredith l'explique clairement, où Satan et ses anges vont retourner au trône de Dieu pour essayer de le renverser. Et ça, c'est tout proche devant nous. Vous pourrez aller voir Apocalypse 12, versets 7 à 9. Allons maintenant à Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Alors, il y a eu une grande guerre dans le ciel à ce moment-là, qui a affecté les planètes, qui a affecté la création physique. Et il y aura bientôt une autre grande guerre dans le ciel où Satan va encore essayer de s'emparer du trône de Dieu. Ésaïe 14, versets 13 et 14. Et regardez, il n'y a plus de détails ici sur le comportement de Lucifer qui est devenu Satan. Dieu dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Il y avait un trône, il était le gouverneur de la terre, si vous voulez. Il dit, « Moi, je vais élever mon trône au-dessus de toutes les étoiles de Dieu, de tous les anges. Je m'asseoirai sur la montagne de l'Assemblée, sur le gouvernement de l'univers, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. « Je serai semblable au Très-Haut. » Dans le sens « Je serai le Très-Haut. » Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? Regardez le verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Et c'est pour ça que si vous allez dans Luc 10, verset 18, le Christ a dit à un moment donné, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et ça, à ce moment-là, le Christ était en train de dire ce qu'il avait vu, lui, en tant que créateur, quand Satan est monté au trône pour renverser le trône du gouverneur de l'univers et qu'il a été précipité sur la terre, comme on voit ici. Le Christ, le créateur de l'univers, a dit, « Je l'ai vu tomber. Je l'ai vu être rejeté du ciel. » Alors, au cours de cette gigantesque bataille entre l'armée divine et Satan, accompagné de ses démons, la terre qui était si belle auparavant, elle est devenue désolée, déserte, une épave cosmique, pour ainsi dire, sans vie à sa surface, une ruine, un amas de boue entouré de ténèbres extrêmement épaisses, tellement épaisses que la lumière du soleil ne rejoignait même plus le sol. C'était comme un mur de ténèbres qu'il y avait tout autour de la planète. C'est intéressant, puis c'est important qu'on voit le déroulement des événements, puis ce qui s'est passé, pour comprendre la grandeur de Dieu, sa puissance, mais comprendre le sens de l'histoire aussi. Genèse 1. Maintenant, on va dans Genèse 1. On retourne, Genèse 1. Je vous redonne le premier verset. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et on sait que c'était superbe quand ça a été créé. On arrive au verset 2. La terre était informe et vide. Il ne l'a pas créée comme ça. C'est quand le verset 1 et le verset 2, c'est là qu'il y a les millions ou les milliards d'années où Lucifer et ses anges administraient la terre jusqu'au jour où il s'est rebellé contre Dieu et il est monté au trône pour essayer de s'emparer du trône de Dieu. Il a pu avoir des milliers ou des millions ou des milliards d'années entre les deux, mais la terre, à la suite de ce grand combat-là, est devenue informe et vide. Dans nos Bibles, c'est marqué « était informe et vide », mais le mot hébreu original, c'est « devint », c'est le verbe « devenir ». La terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors, c'était plein de noirceur, une épaisse noirceur sur toute la terre. Mais on sait que, par les textes, par les Écritures, que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il n'a pas créé les planètes en désordre. Et là, elles étaient devenues toutes en désordre. Ésaïe 45. Ésaïe 45. C'est fascinant quand on met ensemble les différents versets pour voir l'image au complet. Ésaïe 45, verset 18. Regardez ce que Dieu dit encore ici. Ésaïe 45. Verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel. » Et là, il se présente en tant que créateur. « Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. » Est-ce que c'est assez clair? Dieu a créé la terre pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Formidable. Alors, l'attaque de Satan et de ses démons contre Dieu s'est déroulée entre le premier verset et le deuxième verset de Genèse 1. C'est là que ça s'est passé. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite de ça? C'est que la terre est restée dans un état de délabrement total pendant X temps encore. Des millions, des milliards d'années, on ne sait pas. Pendant très, très longtemps. Puis, le Créateur a procédé à une deuxième création, ce qu'on pourrait appeler la recréation. Parce que lui avait en tête là, de créer les êtres humains. OK? Ça faisait partie de son plan depuis le tout début. Parce qu'on sait que l'agneau de Dieu, le Christ qui devait venir donner sa vie, la Bible dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que la décision avait été prise avant. Donc, il savait qu'il allait créer des êtres humains, que les êtres humains allaient pécher et qu'il aurait besoin d'avoir un sauveur pour les racheter. C'est formidable. Tout ça, ça se tient. C'est vraiment puissant. Alors, le Créateur a recréé la terre. Il a refaçonné la surface de la terre en vue d'y créer la vie. Les plantes, les arbres, les animaux, les insectes, les oiseaux et finalement les êtres humains. Maintenant, je pense que ça vaut la peine qu'on s'arrête quelques instants pour voir les jours de la création. Parfois, quand on lit ce texte-là, sans avoir les informations ou sans prendre la peine de vraiment décortiquer, ça semble difficile à comprendre. Mais je vais vous les donner dans un certain ordre, d'une certaine façon, vous allez voir, ça va devenir compréhensible. Et je me base là-dessus sur une étude approfondie qui a été faite par un ministre de Dieu il y a 30-40 ans, M. Torrance, un serviteur fidèle de Dieu qui avait publié quelque chose là-dessus. Moi, ça m'a aidé beaucoup à comprendre ici les jours de la création. On va les passer ensemble rapidement et on va voir ce qui s'est passé durant ces 7 jours-là. Rappelez-vous, au moment où Dieu a recréé la terre ou qu'il a procédé à cette création-là, il y avait une noirceur totale, des ténèbres très épaisses sur toute la surface de la terre. Premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Je vous le dis dans mes mots et après on ira voir les versets. Premier jour, la lumière. Est-ce que le soleil existait déjà? Oui. Dieu l'avait créé longtemps avant, le soleil, avec les étoiles, avec les galaxies, avec tout l'univers physique qui avait été créé à ce moment-là. Alors ça existait. Donc Dieu n'a pas créé le soleil là. La lumière, c'est-à-dire, puisque le soleil existait déjà, est parvenue, le premier jour, à transpercer un peu l'épaisseur des nuages qui étaient collés au sol sur la surface de la terre. La lumière a commencé à entrer dans ces épaisses ténèbres. Ce n'est pas la création du soleil. Il avait été créé longtemps auparavant. On peut le prouver par des textes. Genèse 1, 3, 5. On va voir cette création du premier jour. Dieu dit que la lumière soit. Autrement dit, que la lumière pénètre. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. OK? Formidable. Maintenant, on va. Deuxième jour. Deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le résume encore en mes mots, selon les recherches de M. Torrance. Dieu a provoqué à ce moment-là une augmentation de la température à la surface de la Terre. Et les nuages qui étaient chargés d'eau autour de la surface de la Terre ont commencé à s'élever. Vous avez déjà vu des brumes s'élever le matin quand la température se réchauffe? C'est un peu le même phénomène, mais à plus grande échelle. Alors, les nuages chargés d'eau ont commencé à s'élever. Et c'est alors que s'est dégagé un espace entre le sol et les nuages, qu'on appelle l'étendue du ciel, là où les oiseaux volent. Okay? Parce qu'avant ça, cet espace-là n'existait pas. L'épaisse nuée, là, la noirceur opaque, était collée sur le sol, si vous voulez. Et c'était rempli d'eau dans cette nuée-là, qui ne permettait même pas à la lumière de passer. Donc, jour 2, Genèse 1, versets 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue, donc une espace, entre les eaux. Ah, là, il sépare des eaux aussi. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ça, c'est compliqué comme explication. Mais revenons à l'état des choses. L'épaisse nuée était chargée d'eau. Et la terre était un abîme, comme une boue, si vous voulez. Alors Dieu dit, on va séparer les eaux d'avec les eaux. On va laisser des eaux au sol, mais on va faire en sorte que les eaux qui sont dans les nuées montent, s'élèvent. Parce qu'il voulait créer une surface où la vie serait possible. Et Dieu fit l'étendue. Donc, il a fait, si vous voulez, l'espace libre au-dessus de la terre. Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. OK? Parce qu'il y a les nuées dans le ciel, normalement, sont chargées d'eau à l'occasion, en tout cas. Alors, il y a une séparation entre les deux. Et Dieu fut ainsi, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. On l'appelle encore ciel. On dit les oiseaux volent dans le ciel, les avions volent dans le ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Troisième jour. À ce moment-là, Dieu a fait apparaître, Dieu a fait émerger de grandes plaques de terre, parce que c'était avant ça comme une boue. Si vous regardez dans le verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre et au-dessus de l'abîme des eaux. C'était de l'eau partout. Okay? Alors, Dieu a séparé ici l'eau d'avec la terre. Dieu a fait apparaître, a fait émerger de grandes plaques de terre en amassant l'eau dans des océans, des lacs, des rivières. C'est ce qui s'est passé le troisième jour. Mais ce n'est pas la seule chose. Ce même jour-là, une fois que les eaux ont été ainsi séparées, que l'océan existait, les rivières, les lacs, ce même jour-là, Dieu a créé les plantes et les arbres. Oui, là, il y avait de la terre sèche. Il a créé les plantes et les arbres dans cette même période de 24 heures. Genèse 1, versets 9 à 13. C'est fascinant quand on le regarde de cette façon-là. Genèse 1, 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Voyez-vous, il a créé les océans, les lacs. Et que le sec paraisse, la terre, les continents. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant leurs fruits, selon leur espèce, ayant leur semence, et ainsi de suite. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux la semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Voyez-vous, quand on le regarde dans l'ordre comme ça, tout se tient et il y a une logique là-dedans. Quatrième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne rapidement, mais prenez des notes, puis vous pourrez reprendre le sermon puis refaire l'analyse vous-même. Vous allez voir comment tout tombe en place. Quatrième jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, avec le réchauffement, avec la lumière qui continuait de pénétrer, l'épaisseur des nuages continuait à diminuer. Et là, les rayons du soleil ont pu atteindre le sol. Ce dont les plantes et les arbres avaient besoin, à cause de la photosynthèse, en fait, et tous ces phénomènes-là qui doivent se produire. À ce moment-là, la lumière du soleil a vraiment touché le sol. Ça a été progressif, quand même rapidement, dans l'espace de quelques 24 heures, mais ça a été progressif. Et vers le soir de cette même quatrième journée-là, la lune et les étoiles sont devenues également visibles à partir du sol, à partir de la terre, parce que ça s'était suffisamment dégagé. Genèse 1, 14, 19, voyons-le. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. On sait qu'ils avaient été créés avant, ils étaient déjà là, mais qu'ils produisent leur lumière pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu fit les deux grands luminaires, il les avait faits auparavant, mais il les a rendus opérants pour atteindre la terre. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles, mais comme je vous dis, elles étaient là, on l'a vu tantôt, mais il a fait que les étoiles deviennent visibles de la terre. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. C'est formidable quand on le met dans ce sens-là. Et là, à ce moment-là, je m'arrête ici. À partir de là, à partir de la fin du quatrième jour, les conditions étaient réunies pour soutenir la vie animale sur la terre. Toutes les conditions étaient réunies à ce moment-là pour soutenir la vie animale. Parce que là, il n'y avait pas d'animaux créés. Les êtres humains n'avaient pas été créés non plus. Mais les conditions étaient là. La lumière se rendait jusqu'au sol. Il y avait de la chaleur. La végétation avait été créée la veille. L'eau avait été séparée, avait été purifiée. Et l'air avait été purifié. Donc, les conditions normales, nécessaires, pour permettre la vie animale sur la terre. Cinquième jour, Dieu a créé les poissons, puis les animaux marins, puis les oiseaux. Les poissons, les animaux marins, les oiseaux. Versets 20 à 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, ainsi de suite. » Verset 23, « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. » Sixième jour, maintenant, le Christ a créé tous les animaux terrestres. Dans un premier temps, le sixième jour, Dieu a créé tous les animaux terrestres et ensuite, Adam et Ève. Adam et Ève. Genèse 1, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Il en fut ainsi. Versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons. Pourquoi il dit faisons? Parce qu'il était deux. Parce qu'il y avait le gouverneur de l'univers et son porte-parole. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, et ainsi de suite. Et là, il donne le mandat à l'homme de prendre soin de la création, comme il avait donné à Lucifer et à ses anges, de prendre soin de la création terrestre. Il leur donne ce mandat-là. Verset 31, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » Et maintenant, on arrive au septième jour, et là, le Christ a créé le sabbat, pour l'homme, comme il dit à différents endroits, en se reposant. Il a créé le sabbat en se reposant. Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors ici, on a une description rapide, mais assez précise de ce qui s'est passé dans chaque jour de la création. Maintenant, je fais un petit point concernant la création de l'être humain, parce que c'était la créature la plus importante pour Dieu, parce que Dieu avait l'intention de se reproduire dans les êtres humains, comme on connaît maintenant le plan de Dieu. Et au moment où les êtres humains ont été créés, Adam et Ève, ils ont été créés avec un esprit. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Mais ils ont été créés, comme la Bible explique, avec un esprit dans l'homme, ce que les animaux n'ont pas. Les animaux ne sont pas capables d'inventer, de créer, de décider, de choisir, d'analyser. Mais l'être humain est capable de le faire parce que Dieu a mis en lui l'esprit humain qui est capable d'évaluer, de choisir, de décider, donc le libre arbitre, avec un choix à faire, de suivre les lois de Dieu, que Dieu leur avait enseignées, ou non. Genèse 2, verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors Dieu avait enseigné Adam et Ève, leur avait donné ses lois, les avait mis en garde du fait de choisir par eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Ça, il ne fallait pas qu'ils le fassent. Il fallait qu'ils suivent ce que Dieu leur disait de faire, ses lois, parce que c'est la voie qui mène au bonheur. Et Dieu voulait que ses enfants soient heureux, qu'il voulait que sa famille soit bien. Alors, on sait qu'Adam a fait un mauvais choix, et Dieu a décidé à partir de ce moment-là de leur accorder 6000 années pour faire leur propre expérimentation. Bâtissez-les au système de gouvernement. Bâtissez-les au système d'éducation. Bâtissez-les au système économique. Et vous allez voir en bout de ligne qu'est-ce que ça va donner et les souffrances que vous allez devoir endurer à cause de ça. Et là, vous allez être en mesure de comprendre. Mais en même temps, Dieu a fait une promesse de salut pour l'humanité. Genèse 3, versets 14 et 15. On voit ici que Dieu s'adresse au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et regardez le verset 15. C'est là-dessus que je veux attirer votre attention surtout. Dieu dit au serpent, et en même temps à Satan, parce que ça représente Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Et encore aujourd'hui, il y a inimitié entre Satan et l'Église. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Allez à Ésaïe chapitre 7, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Ici, dans Genèse 3, verset 15, dans le fond, on a la toute première promesse qui est faite dans l'Ancien Testament, qu'un Messie sera envoyé, qu'un Sauveur sera envoyé à l'humanité, que le Christ allait venir dans la chair humaine pour payer l'amende pour nos péchés. C'est implicite ici dans le texte. Alors, Ésaïe, donc, 7 et le verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, une prophétie, ça. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. » Ici, il parle de Marie. « Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, il y avait déjà la promesse que le Sauveur allait venir dans la chair humaine, Dieu avec nous, pour payer l'amende de nos péchés. Allez à Apocalypse 12. Apocalypse 12. Vous allez faire un lien ici qui est important à faire. Apocalypse 12. Cette femme dont il est question dans Genèse 3, et le verset 15, qui doit écraser la tête du serpent, on la voit ici, Apocalypse 12, verset 1. « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu. » Ça représente Satan, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, le tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et quand la Vierge Marie a enfanté le Christ, qu'est-ce qui est arrivé? Le roi Hérode a envoyé ses armées pour faire tuer tous les enfants en bas de 2 ans en espérant tuer le Christ. C'est exactement ça qui s'est produit. Pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître les nations. Voyez-vous, ça doit être le roi des rois. Avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. C'est là qu'il est maintenant. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé, et ainsi de suite. On peut continuer. Et là, ça représente l'Église à ce moment-là. Et plus loin, ça représente l'Église qui sera amenée à un lieu de sécurité. Alors, c'est l'histoire de l'être humain, créé libre, qui a fait le mauvais choix, auquel Dieu a promis d'avoir un rédempteur. Mais dans tout ça, Dieu continuait à créer. Et revenons dans ce sens-là à la création de l'être humain, comme Dieu l'a planifié. La création de l'homme, peut-être ça va vous surprendre, mais si vous y pensez le moindrement, vous allez réaliser. La création de l'homme, elle n'est pas encore terminée. La création de l'homme, elle n'est pas encore terminée. Ce n'est pas le produit fini que Dieu a vu dans son plan au début de la création, quand il a dit « Faisons l'homme semblable à notre image ». On n'est pas encore rendu à l'image de perfection du Christ et de Dieu. Nous sommes en préparation, nous sommes en train d'être créés par le Créateur de l'univers. Cette création-là, elle est encore en cours de réalisation dans la vie de chacun de ceux que Dieu appelle présentement. Mais Dieu étant pas injuste, il va appeler les autres plus tard. Quand le Christ va être revenu, d'ici peu, tous les êtres humains vont pouvoir être appelés. Et cette création spirituelle-là qui est en cours dans le cœur de ceux que Dieu appelle présentement dans le petit troupeau, qui forme le petit troupeau, cette création-là, c'est la création spirituelle. L'homme a d'abord été créé physique, avec un esprit humain capable de choisir, tout ça. Mais maintenant, il a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu en lui, après s'être repenti, pour devenir une nouvelle création, une création spirituelle, l'homme de Dieu, l'homme selon Dieu. C'est la création de ce que la Bible appelle l'homme nouveau. L'ancien moi, qui était pécheur, qui était méchant, doit disparaître et on doit développer la culture de Dieu, vivre selon ses voies, vivre selon ses lois, selon ses fêtes, accomplir, nous, son œuvre d'ici la fin, et la fin est proche. Et ce faisant, nous continuons à être créés par le Dieu de l'univers pour nous préparer à régner avec le Christ. C'est la création de l'homme nouveau, l'homme qui se repent, qui, avec l'aide de Dieu, rejette ses anciennes voies mauvaises pour vivre selon la volonté de Dieu. Puis dans celui qui cherche à vivre selon les lois divines, qu'est-ce que Dieu fait? Il développe son caractère parfait et juste. Création divine de l'homme nouveau, qui va devenir fils et fille de Dieu au moment du retour de Christ, au moment de la transformation en être spirituel. Et c'est formidable, quand vous regardez certains écrits de M. Armstrong là-dessus, Dieu lui avait donné de comprendre profondément ces grandes vérités-là. Je vous cite ici, à partir de l'incroyable potentialité de l'homme, un passage à la page 42 et 43. Ça dit ceci. La plus grande, dans le fond, M. Armstrong explique que la plus grande création de Dieu, c'est ce que Dieu est en train de créer. Des enfants qui vont naître de sa famille en tant que ses fils et ses filles spirituellement de même nature que lui, étant Dieu comme lui, n'ayant jamais son poste, ni le poste de Christ. Mais quand on est dans la famille de Dieu, on est de même nature. C'est pour ça qu'on pourra voir le Christ tel qu'il est, dans sa condition spirituelle, parce que nous allons devenir totalement des êtres spirituels. Et regardez ce que M. Armstrong écrivait ici. La réalisation suprême en matière de création de la part de Dieu. Dieu ne peut pas créer instantanément, à la suite d'un ordre, le même caractère parfait, saint et juste, qui est inhérent à lui et à la parole. Il y a une chose que Dieu ne peut pas créer instantanément. Une chose que Dieu ne peut pas créer, c'est le caractère parfait dans un individu. Ça serait un robot. S'il met un programme dedans que la personne est obligée de le faire, elle n'a pas choisi. Alors, c'est pas ça que Dieu veut. Alors, c'est pour ça que la seule chose que Dieu n'est pas capable de créer instantanément, c'est le caractère saint, parfait, dans un être libre. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il nous donne son esprit et on a toujours le choix jusqu'à la fin. On peut, à la dernière minute, se détourner même et perdre. Paul dit, j'ai peur à un moment donné d'être désapprouvé. C'est pour ça que je cours et que je tiens mon corps dans la soumission. Mais Dieu veut créer le caractère parfait dans ceux qui l'appellent. Et c'est possible. À Dieu, tout est possible. À moi, tout est impossible. Ça, je le sais, par expérience. Mais je sais qu'à Dieu, tout est possible. Ce genre de caractère, je continue la citation, a besoin d'être développé par l'intermédiaire du choix et de l'intention libre de la personne dans laquelle il vient à exister. Aussi, le caractère parfait, saint et juste est la plus grande chose que Dieu puisse réaliser. Et c'est pour ça que ça lui tient tellement à cœur. Écoutez, il a donné la vie de son Fils unique et le Christ est mort spécialement pour ça. Pour que nous soyons pardonnés, lavés de nos fautes, changés, que nous ayons accès au trône de miséricorde pour être secourus dans nos besoins et devenir comme le Christ et entrer dans la famille de Dieu et vivre éternellement heureux, capable de produire plein de choses, comme on verra, capable de vivre dans une atmosphère merveilleuse. C'est également le moyen d'aboutir au but suprême et ultime, l'objectif final de Dieu, de bâtir sa famille. Je le répète, le caractère parfait a besoin d'être développé. Donc, ça prend du temps et ça prend des expériences pour ça. Ça prend du temps, ça prend des expériences. Et parfois, elles sont douloureuses. On le sait tous. On passe tous par toutes sortes d'épreuves. Je le répète, le caractère parfait a besoin d'être développé et cela exige le libre choix ainsi que la libre décision de l'entité distincte, c'est-à-dire la personne dans laquelle il doit être créé. Toutefois, même dans ce cas, Dieu seul a le pouvoir d'octroyer le caractère juste et parfait. Dieu seul a le pouvoir de l'octroyer. Je ne peux pas me l'octroyer. Et je ne peux pas dire, je vais me rendre assez juste, qu'il n'y aura pas le choix, il va me l'octroyer. Non, non. Il faut que je sois assez soumis, puis assez reconnaissant envers lui, que tout me vient de lui, et que moi, je suis entièrement mauvais, et que je dois changer totalement, pour que lui soit, à partir de ce moment-là, capable de créer en moi son caractère parfait et juste. Par ce genre de caractère, l'individu acquiert la capacité d'en venir à discerner la voie juste et vraie, de celle qui est erronée, de se soumettre volontairement, pleinement et de manière inconditionnelle à Dieu, de lui céder de façon à être conquis par lui. Plusieurs fois, M. Armstrong nous disait, il faut qu'on soit totalement conquis par Dieu. C'est ce qui le rend capable de prendre la résolution, même devant la tentation ou les désirs charnels de sa nature, de vivre selon le bien et de faire le bien. Le caractère saint est un don divin. Il faut le demander. Il faut demander à Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans nos prières que ta volonté soit faite dans telle ou telle circonstance. On a tel ou tel problème, on dit à Dieu, j'aimerais que telle chose se règle. Mais il ne faut pas oublier dans toutes ces circonstances-là de dire à Dieu que ce soit selon ta volonté, mais non pas la mienne. Il faut que ce soit toujours la même chose. Là, on est entièrement soumis à Dieu. Le caractère saint est un don divin. Il ne vient que de Dieu dans la mesure où il l'a inculqué à l'être qu'il a créé avec son assentiment, parfois même à la suite de grandes épreuves. Oh, qu'on le sait! Oh, qu'on le sait! Parfois, on passe par de grandes épreuves. C'est douloureux. Mais à travers ça, Dieu nous soutient, nous console, nous encourage, nous guide, nous bénit. Il nous permet de sortir à l'autre bout de l'histoire étant vainqueur par sa puissance, par sa force. Alors, Dieu est en train de créer. La création se continue dans l'homme, dans ses serviteurs fidèles et persévérants. La création de l'homme nouveau, elle est en cours de réalisation. Elle est en cours de réalisation. Le Christ crée. Il crée en plus de créer dans chacun de ses petits frères et ses petites sœurs son caractère, parce qu'on doit revêtir le Christ, ses idées, ses pensées, sa mentalité, sa façon de faire. On doit l'imiter. Le Christ crée en plus de créer dans chacun son caractère, il crée une équipe. M. Winning en a parlé dernièrement. Il est en train de créer une équipe qui va devenir très unie pour être capable de travailler en parfaite harmonie un jour sous lui et sous le Père pour administrer la Terre dans un premier temps et ensuite le reste de l'univers. C'est fantastique ce qui nous attend. Ça dépasse l'imagination. La création de chacun de ses fidèles va être complétée le jour de la résurrection. Quand nous naîtrons dans la famille de Dieu avec un caractère parfait et juste. Et pour ça, il faudra que le Christ, à son retour, vous trouve et me trouve en train vraiment de vouloir à tout prix, malgré les épreuves, les difficultés, développer ce caractère saint et juste. Et là, il va nous rendre parfaits. Il va compléter le travail. Mais ce n'est pas tout. Le titre du sermon, c'est « Dieu le Créateur ». Il n'arrête pas de créer. Il n'arrête pas de créer. Et la création va se poursuivre au-delà du retour de Christ. Comment? Il y aura des êtres humains sur la terre. Et il y aura à ce moment-là une toute nouvelle société qui va être développée durant le millénaire, durant le millénium, durant le premier mille ans du règne de Christ. Une société complètement différente de la société que nous voyons autour de nous actuellement. Mais pour ça, il faudra que Dieu crée encore. La création va continuer durant ces mille ans. Et ce sera une autre étape de la création spirituelle. Allez à Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11. On va voir ici une courte description de cette merveilleuse société qui aura sur la terre à un moment donné, quelques années après le retour de Christ. Parce que dès le retour de Christ, ça ne sera pas changé instantanément. Rappelez-vous, Dieu crée son caractère dans le temps. Ça prend des expériences de vie, ça prend certaines épreuves, ça prend le temps de faire des choix, de développer ce caractère-là de Dieu. Alors, l'humanité qui sera encore vivante au retour de Christ ne changera pas instantanément. Il va falloir travailler avec eux autres. Ils vont faire des expériences, parfois ils vont se tromper, parfois on va devoir les corriger, toujours les encourager, les guérir, les amener à penser autrement, à revêtir le Christ à leur tour, à penser comme lui, à se laisser être créé selon l'être que Dieu veut voir être créé en eux, pour qu'ils deviennent fils et filles de Dieu à leur tour. Alors, Ésaïe 11 et le verset 9. Regardez à ce moment-là, dans le millénium, après un certain nombre d'années, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. » Il n'y en aura plus de problèmes, de difficultés, de conflits, de misères, de guerres. « Car toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. » Nous aurons eu le temps d'enseigner à tous les êtres humains. Nous aurons pu aller partout sur la face de la terre. Les choses seront changées. La terre sera remplie de la connaissance d'Éternel et les gens ne feront pas seulement connaître, c'est qu'ils vont en vivre. On va leur montrer à vivre une autre vie. Ils vont en tirer les profits et ils vont en être contents. Ils vont goûter comment c'est bon les voies de Dieu, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Encore la création de Dieu qui se continue. Création spirituelle des êtres humains pour que ceux-ci entrent dans sa famille. Et la grande œuvre créatrice de Dieu le Père et de son Fils se poursuivra encore après le millénium. Ça, vous pouvez déjà le voir si vous connaissez le sens des fêtes et tout ça. Parce qu'après le millénaire, qu'est-ce qui va arriver? Tous les gens qui sont morts au cours de l'histoire, les milliards d'êtres humains qui n'ont jamais connu le vrai Dieu, Dieu étant juste, Dieu va leur donner leur chance. Et pour qu'ils aient leur chance de le connaître, et d'avoir la connaissance du vrai Dieu et de vivre selon ses lois, il va les ramener à la vie. C'est la deuxième résurrection qu'on voit dans les textes. Et Dieu va leur offrir à ce moment-là la possibilité, à eux aussi, de développer son caractère en vivant pendant une certaine période de temps pour devenir aussi ses fils et ses filles. Il va être en train de compléter sa création spirituelle avec des êtres humains pour en faire ses enfants à part entière. Et après que cette période-là se sera terminée, que tous les êtres humains qui n'ont jamais vécu auront eu leur chance, là, il va se passer un phénomène très spécial. Apocalypse 21. On ne va pas voir souvent ce passage-là, mais ça dit énormément, et surtout dans le contexte de ce que je vous montre aujourd'hui, Dieu le Créateur, qui ne cesse pas de créer et qui ne cessera jamais de créer. Après que tous les êtres humains auront eu leur chance de salut, ceux qui ont existé dans le passé, c'est le Père, c'est-à-dire le gouverneur de l'univers, qui était en charge de son porte-parole de toute éternité, lui-même va venir, c'est-à-dire, sur la terre pour y établir sa demeure. Apocalypse 21, on va commencer à lire au verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Ah! Si on voit un nouveau ciel puis une nouvelle terre, c'est parce qu'ils auront été renouvelés. Il y aura des choses qui ont été changées à la surface de la terre et dans le ciel. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu dans leur forme actuelle, si on veut. Comme quand Dieu a recréé, dans Genèse 1, verset 2, ça a changé de forme. Dieu a ramené ça à une forme originale très belle. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle ou la maison de Dieu avec les hommes. » Et ici, il parle du Dieu suprême. « Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » On l'a chanté dans les cantiques tantôt. « Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Pourquoi qu'il n'y aura plus de mort et plus de deuil? Parce que tous les êtres auront eu leur chance de choisir d'obéir à Dieu. Tous ceux-là qui l'auront fait vont être transformés en êtres spirituels et ne pourront plus mourir. Ceux qui auront refusé ou ceux qui se seront détournés volontairement de Dieu auront été éliminés. Voyez-vous? Et verset 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je viens. Je fais toute chose nouvelle. » Création encore. « Je fais toute chose nouvelle. » Et il dit, « Écris ces paroles, car elles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Je serai son Dieu et il sera mon fils. Maintenant, j'arrête pas là. Est-ce qu'un créateur cesse de créer? Non, il ne cesse pas de créer. C'est une des caractéristiques majeures de Dieu. Dieu va continuer à créer. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'il n'y aura plus d'êtres humains qui vont exister, seulement des êtres spirituels dans la famille de Dieu. Les anges qui lui ont été fidèles, le Père et son Fils, le Christ, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce qui va arriver après? Intéressant. Rappelez-vous que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il est d'abord et avant tout créateur. Il va continuer à créer. Quand nous serons nés dans sa famille, nous allons devenir totalement comme lui, ayant les mêmes caractéristiques, ayant une grande puissance, il va nous donner une grande puissance, et nous deviendrons aussi des créateurs, comme notre papa, comme notre père. Exactement. Nous deviendrons aussi des créateurs. Et nous allons travailler avec lui à toutes sortes de projets formidables. Nous allons travailler avec lui à toutes sortes de projets formidables. Il y a une indication claire dans la Bible à ce sujet-là. Allez à Romains 8, ça vaut la peine. Il ne faut pas qu'on passe ça. Romains 8. On a une indication ici comme de quoi ce que Dieu a créé il y a si longtemps, des milliards d'années, est en état de décadence actuellement, en état de souffrance, et que ça attend pour être renouvelé, amélioré, embelli, ramené dans un bel état. Alors, Romains 8 et le verset 17. Romains 8 et le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est normal. Nous héritons de nos parents. C'est ça. Et nous allons hériter de Dieu. Et nous allons devenir co-héritiers du premier héritier de Dieu, qui est le premier-né de sa famille, le Christ. Et il dit, vous allez être co-héritiers du Christ. Vous allez hériter les mêmes choses que le Christ a hérité. Et que dans le fond, il a créé lui-même. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. OK? Alors, il dit, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si on continue à marcher dans ses voies, à faire sa volonté puis à développer son caractère. Regardez, on continue. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Dans vos Bibles, vous avez pour vous probablement, mais le mot en grec, c'est E-N, c'est en nous. Ça s'écrit E-V en grec, là, mais c'est en nous. Ça sera révélé en nous. Pourquoi? Parce que nous allons devenir des êtres glorieux comme le Christ. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Aussi, et c'est là-dessus que j'attire votre attention, la création, quand on parle de la création, là, on parle de toute la création. La terre, avec les animaux, l'eau, l'air, tout ça, la lune, le soleil, les planètes, les galaxies, tout le cosmos, tout ce qui a été créé. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? C'est notre transformation le jour où le Christ va revenir. On sera révélé en ce moment-là en tant que fils de Dieu à part entière, membre de sa famille, administrateur de son gouvernement sur la terre. Nous serons révélés en tant que ses enfants. Car la création a été soumise à la vanité et à la méchanceté de Satan, qui l'a détruite en grande partie quand il a monté au trône de Dieu pour livrer la grande bataille qui s'est livrée. Et après ça, on voit le chaos qui s'en est suivi dans la création physique. Au point que la terre n'avait plus aucune vie et que c'était un amas de boue sous une couche épaisse d'une nuée chargée d'eau. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, qu'elle va être libérée de la corruption qu'on connaît. Toute la pollution qu'il y a ici aussi. Et la corruption, ou si vous voulez, dans les autres planètes ou dans les airs, pour avoir part à quoi? À la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et la terre va redevenir glorieuse. Et les autres planètes ont un sort qui les attend, qui sera merveilleux. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai pour nous maintenant aussi, la création tout entière, pas juste la terre, là, la création tout entière, les planètes, le soleil, la lune, les étoiles, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas dans le bel état qu'elle devrait être et que dans l'état dans lequel Dieu veut qu'elle soit. Nous allons avoir un rôle à jouer par rapport à ça. Et M. Armstrong en parle clairement dans son livre « L'incroyable potentialité de l'homme », pages 36 et 37. Et je termine là-dessus en vous donnant cette magnifique citation. « Les planètes périclitent dans l'inertie. » C'est vrai, ce qu'on peut voir des autres planètes, il n'y a pas de vie. On espère toujours, les êtres humains espèrent toujours qu'il y aura de la vie sur d'autres planètes, mais on trouve des températures extrêmes, toutes sortes de ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut percevoir, si vous voulez. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Les planètes périclitent dans l'inertie, la dévastation et l'inanité. Elles attendent que ceux qui se seront convertis naissent en tant qu'enfants de Dieu pour entrer dans la famille ou le royaume de Dieu, pour entrer dans son gouvernement. Que paraissent les fils de Dieu. L'Évangile de Jésus se rapporte au royaume de Dieu. Cet Évangile inclut, en fait, tout ce que cette connaissance a révélé, à savoir que l'univers tout entier sera régi par nous, qui, avec Dieu le Père et Christ, composeront le royaume de Dieu, son gouvernement. Son gouvernement, qui va régner après ça sur l'univers entier. Dieu est avant tout créateur. Il est également souverain. En outre, il est l'éducateur qui révèle une connaissance qui échappe à l'esprit humain. C'est vrai, quand on y pense, ça nous dépasse même ces choses-là. Si vous groupez tous les passages des Écritures que nous avons cités dans ce chapitre, vous commencerez à saisir l'incroyable potentialité qui est celle de l'homme. Il nous est en effet réservé de naître dans la famille divine et de nous voir octroyer une puissance totale, une juridiction sur tout l'univers nous sera accordée. Qu'allons-nous donc faire après ça? Je repose la question et M. Armstrong continue. Ces passages des Écritures indiquent que nous communiquerons la vie à des milliards et des milliards de planètes mortes. Tout comme Dieu a communiqué la vie à cette terre lorsqu'il a recréé, lorsqu'il l'a créée la première fois et lorsqu'il l'a recréée, comme on a vu dans Genèse 1. Nous créerons selon les directives et les instructions de Dieu. Nous allons être parfaitement soumis et en harmonie avec lui. Nous régnerons pour l'éternité. Les chapitres 21 et 22 du livre de l'Apocalypse montrent qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que nous aurons appris à choisir la voie divine, qui est celle du bien. Ce sera une vie éternelle au cours de laquelle nous accomplirons et nous envisagerons constamment avec jubilation de nouveaux projets créateurs. Ça n'arrêtera jamais, tout en considérant, rempli de bonheur, puis de joie, puis de satisfaction, ce que nous aurons déjà accompli. Puis c'est vrai, quand on accomplit un travail, on regarde en arrière après notre journée, puis on est content de ce qu'on a fait. Et on sera content de ce qu'on aura accompli et de ce qu'on va accomplir dans les temps futurs concernant l'univers. Alors, nos activités, frères et sœurs, dépassent l'imagination humaine. Ça dépasse l'imagination humaine. J'espère que mon sermon vous a donné une toute petite aperçu de ça aujourd'hui. Ce qui nous attend est beaucoup plus considérable que ce qu'on peut penser. L'Évangile du royaume de Dieu a une portée que nous n'arrivons même pas à saisir pour le moment. On l'entrevoit tout simplement. Dieu, le Créateur, est infiniment grand. Et c'est notre Père, et il veut nous amener à terme dans sa famille.